Bonsoir à chacun. Quel bonheur de se retrouver sous le regard de Dieu. C'est tout le temps une faveur d'avoir la santé pour venir, vous le savez? C'est une faveur déjà de pouvoir venir. Nous allons faire une première lecture dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous allons voir une des raisons pour laquelle cette épître a été écrite. Bien sûr, cette épître nous parle du retour de Jésus. Mais il y a aussi notre intention dans le cœur de l'apôtre. On va le lire au travers de quelques versets. Dans le troisième chapitre, 1 Thessaloniciens chapitre 3, on va lire le verset 2, le verset 5, 6, 7 et 9. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Voyez pourquoi. Pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Voilà, ça c'est important. Ouais, être affermi et exhorté au sujet de notre foi. Au verset 5, « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. » Verset 6, « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, et même, voyez, de votre amour. » Verset 7, « En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. » Verset 10, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Amen, c'est ce que nous allons faire ce soir. Je crois qu'une des raisons pour laquelle nous pouvons être rassemblés dans un lieu comme celui-ci, c'est que nous travaillons à faire en sorte que notre foi fasse des progrès. C'est votre désir, hein? Vous avez vu? Paul le dit, je m'informe, je voulais savoir si vous allez bien, où vous en êtes, si vous n'avez pas perdu la foi, si l'ennemi ne vous a pas tenté au niveau de la foi. Et surtout, il veut les voir. Il veut voir ses frères et sœurs afin de compléter ce qui manque à leur foi. Nous allons faire notre lecture dans l'évangile de Luc. Au chapitre 17, c'est les apôtres qui sont en train de recevoir un enseignement sur les scandales et sur le pardon. Vous savez que Jésus a enseigné sur tout, sur beaucoup de choses, en tous les cas, tout ce qui est en ciel à la vie de l'Église. Luc chapitre 17, Jésus enseigne donc sur les scandales. Les scandales, c'est grave les scandales. Et malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Malheur aux hommes de Dieu par qui les scandales arrivent, parce que le scandale, la définition du scandale, c'est un comportement des serviteurs de Dieu qui éloigne les gens de Dieu. C'est une responsabilité sévère. Hein, voyez. Dans ce contexte où Jésus enseigne sur les scandales et sur le pardon, regardez la réaction des apôtres. Verset 5, Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Voilà, est-ce que c'est une prière que vous pouvez, une requête, une demande que vous pouvez faire au Seigneur de temps en temps? Est-ce que vous êtes conscient qu'il vous sera fait selon votre foi, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable? Le juste, il vivra par sa foi. On voit bien que cette foi, cette confiance, cette fidélité à Dieu a des répercussions extraordinaires dans la vie de tous les jours, dans les expériences importantes, mais également dans la vie de tout le jour. Alors, c'est votre prière ce soir? Est-ce que c'est votre prière? Bon, parce que Dieu, on voit qu'il va être d'accord avec cette requête puisqu'il va leur donner un certain enseignement. La foi, cette foi qui croit à l'intervention de Dieu pour nos vies, pour nos foyers, pour nos maisons, pour les gens que nous côtoyons, pour la ville dans laquelle nous sommes, pour le pays dans lequel nous sommes, c'est important de croire à l'intervention du Seigneur. Souvenez-vous de Paul et Silas. Ils servaient le Seigneur, ils évangélisaient, ça n'a pas plu à tout le monde, ils se sont fait taper dessus, ils ont été jetés en prison, ils ont été blessés, et là dans une prison intérieure, dans le noir, en pleine nuit, attachés, blessés, pas soignés, et ils vont se plaindre toute la nuit. C'est ça qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chanter et prier. Et ça a tellement plu au Seigneur que le Seigneur a provoqué un tremblement de terre minutieux, hein, pour que les portes s'ouvrent. Et quel enseignement au travers de cette affaire? Pourquoi? Eh bien parce que Paul et Silas, malgré leurs blessures, malgré leurs liens, malgré les ténèbres totales dans lesquelles ils étaient, ils s'attendaient à l'intervention du Seigneur. Et Dieu les a honorés, et ça s'est super bien passé. Oui, ces deux hommes ne se sont pas plaints, ne se sont pas renvoyés la faute l'un sur l'autre. Ils chantaient des cantiques. Oui, ça a vraiment plu au Seigneur. Il y a l'épreuve, nous avons des épreuves. Notre frère qui priait tout à l'heure rappelait ce verset, que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations. L'apôtre Jacques parle de toutes les épreuves que l'on peut traverser. L'apôtre Pierre parle souvent de toutes les souffrances. On le sait, la vie est quand même difficile et il y a des épreuves, des souffrances, des persécutions, des tribulations, etc. Ou alors on accepte les épreuves, on accepte et on mûrit, on accepte et on surmonte le mal par le bien. La Bible nous demande d'accepter les épreuves de la manière la plus intelligente qui soit, ou alors on ne les accepte pas et on court-circuite tout et on finit par se décourager et par abandonner le Seigneur. Les gens qui restent fidèles à Dieu, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas d'épreuves. Un jour, quelqu'un m'a dit « Oh, si les gens restent fidèles à l'Église, c'est qu'ils n'ont pas d'épreuves. » J'ai dit « Mais tu plaisantes ?» Les gens qui rétrogradent, c'est les gens qui ont des épreuves. J'ai dit « Parce que tu crois que les gens qui restent fidèles, ils n'ont pas d'épreuves, mais ça ne tient pas debout. » Ça tient pas debout. Les gens, on a presque tous les mêmes épreuves. Ça dépend comment on réagit face aux épreuves. Un point, c'est tout. Alors, nous sommes là avec cette requête suite à un enseignement. C'est sur les scandales. C'est stipulé, c'est parce que c'est sérieux cette affaire de scandale qui a fait perdre peut-être la foi à beaucoup de gens. C'est sur le pardon, là aussi, combien de gens ont perdu la foi parce qu'ils ont été scandalisés. Combien de gens ont perdu la foi parce qu'ils n'ont pas voulu pardonner. Vous n'avez pas eu besoin de pardonner plusieurs fois dans votre vie ? Si, bon. Alors, ils adressent cette requête au Seigneur, cette demande au Seigneur, augmente-nous la foi. Et vous avez, alors, est-ce que vous avez, on ne l'a pas lu, mais vous l'avez déjà lu, mais on va le relire. Est-ce que vous avez déjà vu ce que Jésus enseigne derrière ? Ne regardez pas, je vous regarde, moi. Est-ce que, on va le lire, d'accord ? C'est quand même intéressant. C'est quand même très intéressant. Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Regardez ce que Jésus va enseigner. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Mais ce n'est pas fini. Souvent, on a arrêté l'enseignement sur la foi qui augmente à ce verset. Mais ce n'est pas fini. Le verset 7. Qui de vous, c'est bien la suite, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sainte-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Et c'est là que nous allons comprendre qu'est-ce que c'est cette foi qui augmente. Il y a premièrement un rappel de la loi de la semence et de la moisson. Jésus compare la foi à cette semence et cette moisson. Donc, la foi nous est donnée comme un petit grain de moutarde. Donc, ça nous enseigne premièrement que si, même si nous voulons que notre foi augmente, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Il prend une toute petite graine. Si vous faites des semences, vous savez qu'il y a des graines qui sont absolument toutes petites. Et le Seigneur Jésus commence en leur disant, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Voilà, nous avons tous reçu une mesure de foi, tous. La Bible dit que Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. Cette foi, elle est précieuse, même si elle est invisible, même si elle est en petite quantité. Je le répète, ce n'est pas une question de quantité. Là, ça ne peut pas être plus clair. C'est une question de qualité. Cette qualité, elle est par le respect de la parole. La parole, elle est vivante. Vous savez, vous avez le livre là sur les genoux, le Saint Livre. Vous l'avez tous à peu près, non, sur les genoux. Nous ne rendons pas compte que ce livre, il est vivant. Amen. Jésus a dit, par l'apôtre, ma parole, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranches. Nous ne nous rendons pas compte que ce livre, ce n'est pas un livre de philosophie, d'histoire, de science. Il est vivant, ce livre. Quand vous l'ouvrez et que votre cœur surtout est ouvert, il y a la vie de Christ qui se manifeste. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous l'avez vécu certainement, c'est obligé. Si vous vous êtes passé par la repentance et par la conversion, vous avez parfois fait une expérience extraordinaire, votre cœur était ouvert, et il y a un verset de l'Écriture qui a pris vie dans votre âme. C'est pas vrai? Et ça, on devrait le vivre régulièrement. On devrait même régulièrement lire jusqu'à ce qu'un verset de l'Écriture prenne vie dans notre cœur. Et l'apôtre dit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. La foi, c'est quelque chose de sérieux. Il y a des gens qui badinent avec la foi. Oh, moi, la foi, j'ai pas la foi, j'en sais rien. Dieu vous a donné une mesure de foi. Si Dieu vous l'a donné, c'est quand même important. Voyez, peut-être que la vie ne vous a pas gâté, peut-être que votre patron ne vous a pas gâté, peut-être que des gens ne vous ont pas donné certaines choses. Mais Dieu vous a donné à tous une mesure de foi. Alors je le répète, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. La qualité, elle vient justement par la parole. Je lis la parole. Il y a quelqu'un me disait encore la semaine dernière, moi la Bible, je la lis tous les matins, je l'ouvre, paf, comme ça. Et là, je lis là où ça tombe. Je ne pense pas que c'est cette foi qui va grandir, augmenter. On peut parfois, ça peut arriver qu'une fois en passant, tiens, on ouvre la Bible, ça tombe sur les psaumes en principe, on lit un psaume. Bon, vous êtes d'accord? Mais je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de connaître la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne comprendrez pas tout la première fois, ni la cinquième, mais je crois que la foi, elle viendra mieux de cette façon-là. C'est beaucoup plus sérieux. Donc, vous avez reçu une mesure de foi. Les apôtres demandent à faire en sorte que la foi grandisse. Et Jésus va leur montrer, écoutez bien, que le fait que leur foi augmente dépend de leur responsabilité. Vous avez lu avec moi, le Seigneur va parler de la semence, bon, ça c'est évident. Mais il va parler de cet homme qui va travailler au champ, qui laboure, puis après avoir labouré, il s'occupe du troupeau, peut-être il faut qu'il ramène le lait, je ne sais pas moi, des brebis, j'en sais rien, et quand il arrive à la maison, il faut encore qu'il prépare avec peut-être le produit de son travail, le repas à son maître. Vous avez remarqué? Alors on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, premièrement, il compare la foi à un grain de moutarde, ça, c'est acquis, on l'a. Puis, il compare la foi à un serviteur qui laboure, qui paie le troupeau et qui rentre, je répète, et qui prépare à manger à son maître. Eux sont en train de demander la foi, une grande foi, et Jésus les amène sur le terrain de l'obéissance. Vous avez remarqué? Moi, je ne sais pas, on m'aurait dit « augmente la foi », j'aurais dit « écoutez, mais lisez la Bible », je ne sais pas, je serais resté que sur la semence. Même aujourd'hui, mais il y a peut-être 10 ans en arrière, en tant que pasteur, on m'aurait parlé de la foi. Je vous dis, écoutez, lisez la Bible, ce que je viens de vous dire, voilà, tout ce que je viens de vous dire maintenant. La foi qui augmente, elle ne peut être comparée qu'à un homme qui obéit à son maître. Vous avez vu, il fait tout ce qui lui a été ordonné. On le relit, parce que c'est quand même sérieux. Au verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. Et il faut chercher à comprendre. C'est là le problème dans les églises aujourd'hui. C'est que les gens ne comprennent pas. On a parlé de la crainte de l'Éternel à 6 reprises. Et vous vous rappelez, si tu es attentif, si tu écoutes, si tu fais attention, si tu cherches, si tu poursuis, tous ces verbes actifs. Et il ajoute après, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Vous connaissez la parabole du semeur. On va la lire. Gardez la page de Luc. Mes frères et sœurs, parce que ce que je vais vous dire maintenant, il faut le comprendre. Parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui veulent que leur foi augmente. Amen. Mais si vous ne comprenez pas, elle n'augmentera pas. Vous allez comprendre. Matthieu chapitre 13. Vous savez que Jésus donne une parabole. Alors il y a ceux qui ont, soif. Une parabole, maintenant qu'on la connaît par cœur, c'est facile. Mais imaginez-vous, je vous donne une parabole pour la première fois, ce n'est pas dit que vous compreniez la signification. D'accord, hein? Alors, les disciples au verset 10, ils s'approchent. Vous voyez, c'est cette approche de Dieu. Ils avaient écouté la prédication. Il y avait une foule immense. C'est écrit au verset 2. Il y avait une grande foule. Mais au verset 10, il y a les disciples qui s'approchent. Ils veulent une explication. Ils veulent une explication. Et regardez, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Regardez bien, s'il vous plaît. Ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. On voit que Jésus est en train de leur dire, voilà, ils ne comprennent pas. Je leur parle, mais ils ne comprennent pas. Et au verset 19, lorsqu'il explique la parabole, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Et beaucoup de chrétiens entendent la parole, mais à cause de la dureté de leur cœur, ils ne la comprennent pas. Vous comprenez ? Est-ce que vous écoutez, mes frères et sœurs ? Parce que c'est ce que Jésus est en train de dire. Ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Les gens s'approchaient pour la bénédiction, mais il n'y en a qu'une petite moitié, portion, certainement que les disciples, qui voulaient une explication. Il y avait une grande foule qui voulait la bénédiction, et il y avait un petit groupe qui voulait comprendre la parole de Dieu. Et lorsqu'un homme a le cœur dur, il écoute, mais il ne comprend pas. Et il n'y a que celui au verset 23 qui comprend, qui a le cœur comparé à un terrain labouré. Il est dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, et là, comprend. Plus loin, regardez au chapitre 15, verset 10. On pourrait prendre que Matthieu d'ailleurs pour ce sujet. Matthieu 15, verset 10, là aussi, Jésus est en train d'expliquer qu'ils sont tombés dans la tradition, dans la religiosité, et il dit au verset 10, ayant appelé à lui la foule, il dit, mais écoutez et comprenez. Et comprenez, dans le chapitre 22, verset 29, c'est un sujet sérieux, ça, qui revient tout le long de la Bible, du début à la fin. Ça parle justement des morts, hein, la ce qui, c'est le jour aujourd'hui, hein, laisser les morts enterrer les morts. Matthieu 22, verset 29, voyez, ils ne croyaient pas à la résurrection, ils posaient des questions sur la résurrection. C'est comme les gens, ils ne croient pas en Dieu, mais ils vont vous poser des questions sur certaines choses spirituelles. Voyez, bon. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur, verset 29, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ça, c'est grave, lorsqu'on ne comprend pas les Écritures et qu'on ne comprend pas la puissance de Dieu. On va étudier de nouveau la vie de l'Esprit, mais vous allez voir, il faut comprendre certaines choses pour arriver au baptême du Saint-Esprit, même si c'est très simple. Voyez, vous ne comprenez pas les Écritures. Le jour de la résurrection, il est dit que Jésus leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'ouverture du cœur. Le ministre des Finances d'Éthiopie, qui s'est trouvé sur le chemin de Philippe, s'est entendu dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et je peux vous poser la question, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, que pour que la foi augmente, il faut entrer dans un processus d'obéissance? C'est ce que Jésus est en train de leur expliquer. Il faut comprendre, parce que ça va très loin, la compréhension. L'apôtre Paul va dire, mais vous pouvez, si vous êtes ouvert à l'esprit, vous pouvez comprendre les dimensions de l'amour de Dieu. Ça va très loin, la compréhension. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il y a des gens qui prient pour avoir une grande foi. Ils font rien, ils n'obéissent pas. Seigneur, donne-moi le don de foi. Alors, c'est pas... Pourquoi faire d'abord? Mais vous croyez que c'est comme ça que la foi va augmenter? Avec des gens qui, tout excités, vont aller courir tous les séminaires du monde sur « augmente ma foi », je vais vous dire, la foi sans une obéissance n'augmentera pas. Ce n'est pas possible. Et il faut comprendre. Vous voyez, mais est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Quand il a parlé sur le filet, vous savez qu'il fallait séparer les bons poissons des mauvais, il dit « mais est-ce que vous avez compris toutes ces choses ?»« Oui, oui », leur répondirent-ils. Mais quand on voit la suite, on voit bien qu'ils n'avaient pas tout compris. Et des fois, on croit comprendre parce qu'on sait que c'est biblique, mais ce n'est pas ça. Alors, c'est sûr que c'est beau ce soir si Dieu voit dans cet auditoire des personnes qui disent « oui, je veux que ma foi augmente ». Mais il faut comprendre l'enseignement de Jésus. Pour comprendre l'enseignement, il faut comprendre quelle est la responsabilité d'un serviteur. Et nous sommes des serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs. La Bible le dit, que nous sommes tous des dispensateurs. Alors, quelle est ma responsabilité? Aujourd'hui, quand je discute avec les pasteurs, avec les responsables d'église, tous disent la même chose, on trouve de moins en moins de gens qui veulent s'engager, de moins en moins de gens qui veulent servir Dieu, de moins de gens qui veulent s'impliquer. Ils vont commencer à s'impliquer, ah tiens, je vais faire l'école du dimanche, puis ils vont voir que la classe, c'est pas, même les enfants de chrétiens, c'est pas toujours Ah, mais c'est ça, les gosses, hein? Ah, mais moi, non, mais attends, mais moi, c'est pas la peine, hein? J'arrête. Et c'est sûr que ça nécessite un minimum de formation, peut-être, mais ça démontre que de plus en plus, les gens s'engagent de moins en moins. Et ça, c'est un problème. Où les gens, ils en font une partie, mais ils ne font pas le boulot en entier. Et c'est ce que le Seigneur est en train d'expliquer. Beaucoup commencent et s'arrêtent. Je crois que quand, au moins quand on commence, qu'on ait l'honnêteté de finir l'année. Parce qu'il me semble que c'est un engagement. Moi, il me semble. Vous ne croyez pas? À moins qu'on soit muté pour le travail. Mais moi, il me semble que si quelqu'un n'a plus à cœur une activité, qu'il ait au moins l'honnêteté, au moins de travailler jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. Et ça, c'est un problème qui est expliqué dans les signes de la fin des temps, ou dans les paraboles, ou dans l'enseignement de Jésus. La paresse, la lassitude, les vierges qui s'endorment, etc. Les plaisirs du monde. C'est écrit qu'ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Voilà, ça, ce sont des vérités. Et ça, il ne parle pas aux pécheurs. Les pécheurs, ils n'aiment pas le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir, point. Mais ce sont les chrétiens qui se mettent à aimer le plaisir plus que Dieu. Des chrétiens qui sont scandalisés, justement, ou plutôt aspirés par la tiédeur des autres. Est-ce que la tiédeur des chrétiens peut affliger certains chrétiens? Eh oui. Je parle de scandale. On n'est pas dans le scandale, mais quand même, on est dans le mauvais témoignage. Un chrétien tiède, un responsable qui est tiède, ça peut provoquer la tiédeur chez les autres. Ah bon, il fait comme ça. J'ai lu dans un bouquin pour les pasteurs qu'il y avait un responsable. Ils avaient mis en Suisse, dans une église, le responsable de jeunesse, il fumait. Alors, bon, le pasteur, il a dit, bon, ben, écoute, tu fais gaffe et tout, tu fais attention et tout. Oui, bon. Et à la fin de l'année, tous les jeunes fumaient. Mais ils avaient le feu vert. Voyez ? Alors on pourrait prendre des exemples. La liste, elle est interminable. La liste, elle est interminable. Je parle de la tiédeur, les épreuves, les tribulations. Il y a des choses qui font que des gens n'acceptent pas. C'est ça, servir Dieu. Ah, mais moi, on m'avait dit que ce n'était pas ça. Mais oui, quand on sert Dieu, on est confronté à de l'opposition. Les soucis, dans la parabole du semeur, il parle des soucis du siècle. Il n'y en a pas des soucis, il y en a des soucis. Hein? Le désintéressement de l'œuvre de Dieu. Les gens, ils sont intéressés par les bénédictions, mais ils ne sont pas intéressés par l'œuvre de Dieu. Et je peux peut-être poser la question, juste à cet aspect-là. Est-ce que vous êtes intéressé par l'avancement du royaume de Dieu, par la formation de stagiaires? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est sur votre cœur? Tiens, qu'on continue à aider la mission. Tiens, je crois qu'on va présenter bientôt le soutien de, vous savez, notre frère François Aguila, qui traduit la Bible. Il vient de temps en temps, il est très, très, très discret, mais il fait un travail formidable pour la traduction de la Bible en Afrique. Voilà. Tiens, la traduction de la Bible, est-ce que ça m'intéresse? On parlait avec notre frère, M. Puyet, tout à l'heure, sur Portes Ouvertes. Est-ce que nous sommes intéressés par le travail parmi les pays, les frères persécutés? Est-ce que je suis intéressé par l'édification de l'Église? Tiens, peut-être les malades. Il y a une vingtaine de mamies dans l'Église qui ne peuvent plus venir à l'Église. Elles sont âgées. Et des fois, quelqu'un me dit, ah, moi, je veux aller faire des visites. Mais voilà, c'est un intérêt pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, ils ne sont pas intéressés par l'œuvre de Dieu. Alors, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, qu'on ait un pasteur qui nous nourrisse bien. Voilà, mais c'est de l'intérêt personnel, ça. C'est sûr que c'est important d'avoir un pasteur qui vous nourrisse. Mais il y a également une vision. Nous en reparlerons dans l'avenir par rapport au baptême du Saint-Esprit. Car je crois que si nous voulons aller plus loin dans la vie de l'Esprit, il faut que ça corresponde à une vision de Dieu. Je ne vois pas pourquoi Dieu nous baptiserait du Saint-Esprit si on n'a aucune vision de l'avancement du royaume. D'accord ? Alors, toutes ces choses font que les gens n'obéissent pas, ou ils n'obéissent qu'un peu. Et là, il faut regarder et il faut comprendre. Comprenez bien, augmente-nous la foi. Et Jésus leur parle d'un laboureur qui va travailler dans les champs, qui laboure, qui paie les troupeaux, qui rentre, qui doit préparer le repas, et voilà. Jésus est en train de leur enseigner l'obéissance. D'ailleurs, j'ai donné comme titre à ma prédication l'humilité, parce que c'est la fin, plus l'obéissance égale une foi qui augmente. Et c'est incontournable. C'est exactement ça qui est écrit. On peut en déduire, quand on lit ce qu'on a lu, c'est que notre foi grandit au fur et à mesure que nous obéissons. Vous de même, après avoir fait tout ce qui vous a été ordonné. Mais c'est déjà peut-être un problème. Dimanche, je parlais de la crainte de Dieu par rapport au renoncement, quand beaucoup de croyants ne sont pas passés par la conversion, il n'y a pas eu de renoncement, donc ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est le renoncement. Vous me suivez?
Et là, c'est pareil. Il y a des gens qui n'ont jamais obéi à Dieu. Ils vont avoir du mal à comprendre que la foi qui augmente passe par une obéissance complète. Parce qu'il y a le Seigneur qui dit, vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. Et il y a la réponse du serviteur qui dit, on le relit quand même, parce que ça correspond. Le serviteur qui répond, les serviteurs, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Donc il y a cette réponse que Jésus a laissée, c'est important pour nous. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc il y a deux choses, à plus la foi, plus la semence à comprendre pour parvenir à une foi qui augmente, c'est d'obéir jusqu'au bout. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et de rechercher cette humilité vis-à-vis du Seigneur. Le gars, il ne se met pas en avant. Ils disent, nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous sommes des serviteurs inutiles. Ça ne veut pas dire qu'on se rabaisse. Parce qu'on ne comprendrait pas après comment Jésus peut dire, entrez, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses, entre dans la joie de ton maître. C'est sûr que sur la terre, ça paraît inutile. C'est sûr qu'il y a des choses qui se paraissent paradoxales. Nous sommes des serviteurs inutiles, et pourtant Jésus dit, tu as été fidèle, reçois le gouvernement de 10 villes. Et c'est vrai que sur la terre, le résultat est ridicule par rapport à ce qui nous attendra dans le ciel. Et le Seigneur, il fait exprès de mettre en opposition le peu de résultats ici-bas pour montrer la gloire à venir. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais combien de chrétiens, justement, vivent dans l'illusion ? Combien de chrétiens se trompent par des faux raisonnements ? Ils ne veulent pas obéir. « Oh, je servirai le Seigneur quand ça ira mieux. » Quand ça ira mieux. Quand mon mari sera converti. On l'entend, ça. Je vais vous dire, quelqu'un qui ne sert pas Dieu maintenant, il ne le servira pas. Si vous ne servez pas Dieu dans les circonstances d'aujourd'hui, vous ne le servirez pas si les circonstances changent. Écoutez, ça fait 28 ans que je suis pasteur. Tous les gens qui m'ont dit « Ah, moi, je servirai Dieu quand j'aurai plus de problèmes. » Ben là, par contre, c'est sûr que ça risque de traîner un moment. Mais il y a des gens qui disent « Quand j'aurai réglé ce problème, je servirai Dieu. » Ils ne le font pas. Quand j'aurai un travail fixe, « Ah, quand j'aurai un boulot, je servirai Dieu. » Puis après, les gens qui ont du travail disent « Ah, mais non, je ne peux plus servir Dieu, je travaille. » Et tout ça, c'est vrai ce que je vous dis. Moi, je crois que quand on veut obéir, on obéit à Dieu dans la circonstance où on se trouve. Il nous est dit de Noé qu'il a marché avec Dieu en son temps. Si vous ne marchez, il y a des gens, oh, si j'avais vécu à telle époque, j'aurais obéi à Dieu. Ah, si j'avais vécu dans une famille chrétienne, j'aurais obéi à Dieu. Écoutez, si vous n'obéissez pas dans les circonstances où vous êtes aujourd'hui, vous n'obéiriez pas dans d'autres circonstances. Ça, il faut bien le comprendre. Là aussi, la liste est interminable. Regardez avec moi ce verset dans 2 Corinthiens 8, 12. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, le Seigneur, l'apôtre Paul explique bien ça. C'est très, très, très bien expliqué. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 12. Il explique que ce n'est pas l'intention qui compte. Ce n'est pas l'intention. Parce que l'intention, c'est, oh, si j'avais de l'argent, je donnerais beaucoup d'argent au Seigneur. Vous lisez avec moi. 2 Corinthiens 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. La bonne volonté, elle a du sens en fonction de ce que j'ai. Vous comprenez, je veux dire, si j'avais ça, non. Là, relisez-le ce verset et vous comprendrez qu'est-ce que c'est qui est vraiment valable. D'ailleurs, Jésus l'a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. L'obéissance dont Jésus parle, bien sûr, c'est une obéissance de cœur, joyeuse. Et cette humilité nous maintient vraiment dans la grâce de Dieu. Moi, je suis convaincu que quelqu'un qui obéit joyeusement et quelqu'un qui reste humble, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Seigneur, si je peux faire quelque chose, c'est ta grâce. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, etc. Si on peut faire quelque chose, c'est une grâce, oui ou non ? Bon, Seigneur, je peux le faire, merci. Voilà, j'obéis et j'obéis joyeusement. Ce n'est pas une corvée, on en a parlé dimanche un peu, le joug, je vous l'ai dit, le joug, c'est l'image de l'unité, bon c'est évident, et du service. On ne met pas deux bêtes ensemble pour les promener, on les met ensemble pour travailler. Donc, s'il y a cette obéissance joyeuse, cette obéissance de cœur, et cette grâce de se maintenir à sa place, je fais ça, je peux le faire, merci Seigneur. Et c'est vraiment ce que Jésus est en train d'enseigner, de communiquer à ses disciples, parce qu'on pourrait dire, tiens, il demande que leur foi augmente, il leur parle d'un laboureur qui va paître, qui fait un repas, c'est bizarre. Oui, écoutez et comprenez. C'est ça que Jésus disait quand il prêchait. Mais écoutez et comprenez, en obéissant joyeusement jusqu'à la fin de ce que Dieu nous demande, et en vivant dans un esprit d'humilité, votre foi augmentera. Croyez-moi. Là, je vous dis, on est loin de ceux qui parcourent toutes les églises, tous les séminaires, en disant, Seigneur, donne-moi le don de foi. Bien sûr que ça peut paraître très spirituel, mais qu'est-ce qu'on en ferait du don de foi? Est-ce qu'on l'utiliserait bien? Enfin, ça c'est autre chose. Mais franchement, vous ne croyez pas qu'il vaut mieux quand même s'appliquer à ce que Jésus est en train d'enseigner et dire, si Jésus parle d'humilité, d'obéissance, ça vaudrait peut-être mieux de passer par ce chemin-là, plutôt que de réclamer des dons, quoi que si. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui donne comme il veut, quand il veut, qui communique les dons spirituels quand il veut. C'est écrit, un seul et même esprit opère toutes ces choses quand il veut. C'est écrit, donc pour les dons spirituels, ne vous inquiétez pas, cherchons à être remplis du Saint-Esprit, le reste, ça suivra. Mais cette foi qui augmente, elle dépendra de cette humilité et de cette obéissance dans ce à quoi Dieu vous appelle. Vous vous souvenez de cet officier romain à qui Jésus a dit qu'il avait une grande foi, un capitaine de l'armée romaine, qui va dire, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, il va, je dis à l'autre viens, il vient, je dis à celui-ci fais cela, et il le fait. Vous connaissez? En vérité, cet officier, il a une très grande compréhension de l'autorité et de l'obéissance. Il a été formé militairement et il savait très bien qu'on ne pouvait confier une autorité qu'à ceux qui ont de l'obéissance. Si vous avez fait l'armée, ou si vous êtes même dans certaines boîtes, vous le savez, on ne confiera des responsabilités qu'à ceux qui obéissent, aux supérieurs. C'est évident, sinon c'est le début de l'anarchie. Alors il dit, mais parce que j'obéis à mon commandant, parce que j'obéis, on m'a confié des soldats qui m'obéissent. Vous voyez où je veux en venir? Je suis soumis, j'obéis, donc quand je donne un ordre, on m'obéit. Cet homme, il a compris. Il a compris que la source de l'autorité, elle est dans l'obéissance. Parce que la foi, c'est quand même aussi une forme d'autorité, la foi. Quand vous priez, il y a quand même de l'autorité. Vous êtes d'accord avec moi? On peut faire mouvoir le bras de Dieu par une foi qui est grande. Vous le savez quand même. Bon, cet homme, il a compris la source de l'autorité de Jésus. Il savait d'où Jésus tirait son autorité. Il savait que Jésus était totalement soumis à Dieu. Et il savait donc que si Jésus disait un mot, Dieu agirait. Dit un mot, il dit, mais moi je dis un mot, moi un petit capitaine, je dis un mot et il y a 100 bonhommes qui m'obéissent. 100, centenier, ça veut dire qu'il dirigeait 100 bonhommes. Je dis un mot, on m'obéit. Donc toi qui as reçu l'autorité de Dieu, tu dis un mot et tu guéris mon serviteur. Et cette autorité ne peut venir que par l'obéissance. C'est pas étonnant, enfin c'est pas étonnant pour les juifs, si, pour les pharisiens surtout. Mais pour nous, on comprend très bien ce que Jésus est en train de faire et ce que Jésus a permis, parce que cette histoire n'aurait pu ne pas être décrite dans les évangiles après tout. Mais on comprend très bien avec ce que je viens de vous dire qu'on ne peut avoir de l'autorité que si on obéit. C'est pour ça que le diable, il veut qu'on soit rebelle. Parce que quand on est rebelle, on peut supplier Dieu d'avoir le don de foi tant qu'on voudra, et que notre foi augmente, ça ne marchera jamais. Et ce texte rejoint beaucoup Luc 17, le lien entre la foi et la soumission, le lien entre la foi et l'obéissance. Vous comprenez pourquoi c'est important de comprendre la parole de Dieu et de ne pas la lire bêtement. Quand il y a un verset qui vous interpelle, regardez ce que Jésus ajoute derrière et vous comprendrez facilement ce à quoi il faut en venir. Notre foi augmente au fur et à mesure que nous obéissons. En plus, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On l'a vu dimanche. Vous rappelez Abraham ? On termine avec ce qui nous est dit de lui dans Hébreux. On termine de nouveau. Ça rejoint un peu la conclusion de dimanche parce que la crainte de l'Éternel ne peut que nous amener à l'obéissance. Vous êtes d'accord avec moi? Parler de la crainte de Dieu 6 fois de suite sans conclure par l'obéissance, ça serait quand même dommage. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Alors il faudrait lire jusqu'au verset 19, parce que ça parle d'Abraham et de Sarah. Mais on va lire, vous le ferez chez vous, peut-être pour votre culte demain. Premièrement, Hébreux 11, verset 8, c'est le départ. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Vous avez vu? Ça revient souvent dans les craintes, dans la crainte de Dieu. Obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham obéit. Ça commence juste, voilà, tu t'en vas. Il s'en va. Puis après, vous avez vu l'obéissance où ça l'a amené à devoir offrir son fils Isaac. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Ça, c'en était une, c'est sûr. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant. Mais voyez, ça part d'une simple obéissance à une épreuve extraordinaire. Il obéit, l'obéissance d'Abraham, si vous lisez tout, elle est complète. Bien sûr, il a fait des erreurs. À la limite, tant mieux, parce que moi, ça nous déculpabilise par rapport au nôtre. Il s'est ressaisi, attention. Il s'est ressaisi, mais malgré le fait que ce soit l'ami de Dieu, il a quand même commis des erreurs qu'il a dû réparer. Mais voyez quand même, il a commencé à obéir, et il a continué à obéir, et il a continué à obéir, et il a continué à obéir, il a obéi jusqu'au bout, jusqu'à cette fameuse épreuve de Genèse 22, et c'est là qu'il a dit, je te bénirai parce que tu as obéi à ma voix. Et la foi d'Abraham, qui est notre modèle quand même, enfin bien sûr, je ne parle pas de la foi de Jésus, c'est même pas la peine, mais la foi d'Abraham, c'est quand même notre modèle, Abraham, un de nos modèles. Par excellence, eh bien c'est un homme qui a obéi, il a obéi jusqu'au bout. C'est le serviteur qui a labouré, qui a paie les troupeaux, qui a préparé à manger, qui jusqu'au bout, et qui a dit, écoute, voilà, je l'ai fait, j'ai pu le faire. Il a obéi jusqu'au bout. Et ça, mes frères, il faut le comprendre. Il ne remet rien à plus tard. Aujourd'hui, il y en a qui reçoivent un appel, on le voit chez les jeunes serviteurs de Dieu, voilà, ils attendent. Et ça peut être dangereux, Dieu nous récupère, mais ça peut être dangereux. Le Seigneur peut vous mettre quelque chose à cœur, ben je le verrai demain. Et puis demain, on a oublié. Il y a un proverbe français qui est vrai, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Ça peut être très dangereux. Il y a certaines, combien de millions de gens sont peut-être en enfer, ils ont remis leur conversion à plus tard, et le plus tard, ils ne l'ont pas connu. C'est valable, c'est grave pour l'éternité, mais c'est dommage pour le service de Dieu. Oui, augmente-nous la foi. Eh bien voilà, j'ai la semence. Elle est dans votre cœur. Vous l'avez. Ça, c'est réglé. Mais maintenant, est-ce que vous avez un esprit d'obéissance joyeux? Il faut obéir. Non, Seigneur, c'est un honneur. Moi, pour moi, c'est un honneur. Vous voyez, c'est un jour férié. On est tous là. Moi, je préfère être là qu'ailleurs. Moi, c'est un honneur de servir Dieu aujourd'hui. Vous voyez? C'est bien? Obéir du début à la fin. Dans un esprit d'humilité, avec une foi de qualité, le Seigneur augmentera notre foi. Et ça plaira à Dieu. Amen. On ferme les yeux quelques instants. Oui, rappelez-vous ce verset. Écoutez et comprenez. C'est comme ça que les gens changent. Ce n'est pas avec des manifestations particulières. Je prie pour qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit. Mais voyez, vous relirez ça, vous verrez, c'est clair. Une fois qu'on l'a compris, c'est clair. Mais mes frères et sœurs, n'avons-nous pas un Dieu qui veut nous bénir? Voulons-nous une foi qui ait de l'autorité? On répond dans son cœur. Ne répondez pas haute voix. Mais mes frères et sœurs, Dieu voit dans votre cœur. Est-ce que vous voulez cette foi vivante, pleine d'autorité? Lorsqu'on prie, lorsqu'on est devant le trône de Dieu, cette foi qui fait mouvoir le bras de Dieu. Oui, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on ait cette foi-là. Mais elle ne viendra que par la qualité de la parole de Dieu, et non pas des élucubrations mystiques. Elle viendra par la qualité de la parole, par une humilité toute simple. On peut le faire, eh bien c'est super, merci. Je peux le faire, eh bien c'est bien. Et une obéissance, allez jusqu'au bout. Ne laissez pas l'ennemi vous décourager. Obéissez jusqu'au bout. Ne pensez même pas à la récompense. Faites-le pour l'honneur d'être sous le joug doux et léger de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, tu nous avais donné rendez-vous ce soir. Tu savais qui viendrait dans ce lieu. Tu sais où nous en sommes avec toi. Tu connais nos attentes, nos craintes. Tu connais nos erreurs. Mais tu connais également nos désirs. De voir cette foi augmenter, de compléter ce qui manque à notre foi, de savoir où nous en sommes, Seigneur, au niveau de notre foi, comme Paul le suggérait pour les Thessaloniciens, Seigneur, qu'il en soit ainsi de moi-même pour l'Église, que je puisse, par ton esprit, compléter ce qui manque à notre foi. Seigneur, tu vois mes frères et sœurs, tu vois leur désir ce soir,
de se ressaisir. Tu vois, ceux qui ont besoin de réapprendre l'obéissance totale, cette obéissance de cœur par rapport à tout ce que tu leur as demandé. Seigneur, nous te demandons de nous aider. Que ton nom soit béni, Jésus.